Chapitre 2. Les premiers vents froids venaient à peine d'arriver sur la France début décembre. Il n'y avait quasiment pas eu de transition. Les demi-saisons s'étiolaient au fil des années. Ce matin-là, sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, Zoé remonta le col de sa veste pour se protéger le cou. Il était à peine 6 heures et le bus venait de les déposer au pied de l'avion. Un Airbus affrété rien que pour eux. Vol direct vers Cayenne, en Guyane. On prenait soin de rester en territoire français le plus possible, de toute évidence. Elle et Romy avaient pu embrasser une dernière fois René avant que son caisson ne soit chargé en soute. On leur avait garanti que la soute en question était ventilée et chauffée pour la durée du voyage. Quitter leur chien pour moins de 10 heures leur prit plus de temps que pour saluer toutes les personnes qu'elles connaissaient au Vésinet et au-delà. Elles étaient autorisées à leur expliquer la raison de leur départ uniquement si elles transmettaient au préalable le nom des individus concernés à l'équipe de Mathéo Villon. Il envoya alors un membre du gouvernement leur faire signer un document engageant leur discrétion, tant que le gouvernement ne décidait pas de communiquer. C'était une usine à gaz. Et comme ni Romy ni Zoé n'avaient de véritables amis, pas plus que de relations familiales, la plupart des membres de la famille s'étaient comportés comme des crétins lors des années de transition de Romy, le choix avait été rapide. Personne. Pas même l'éditeur de Zoé. Pour celui-ci, elle avait longuement hésité. C'était un type formidable qui ne méritait pas qu'on le tienne à distance. Mais Zoé ne voulait pas avoir à expliquer, encore moins à se justifier alors qu'elle-même n'avait pas les arguments pour le faire. Il serait toujours temps d'envoyer un mail d'excuses une fois sur place. Le choc serait tel qu'elle imaginait qu'on lui pardonnerait bien volontiers. Et puis, elles auraient l'occasion de rentrer brièvement. Une pause de 7 à 10 jours tous les 2 mois. C'était un engagement écrit noir sur blanc dans leur contrat de travail. L'occasion de faire amende honorable en racontant ce qu'il y aurait à raconter. Une nouvelle rafale glacée fit trembler Zoé dans la nuit de l'aéroport. Les lumières orangées, le bruit des réacteurs, l'abysse des ténèbres au-dessus, tout ressortait avec une aura étrange en cet instant. Elle s'apprêtait à quitter sa patrie pour un exil lointain, avec un objectif fou. Qu'allait-il découvrir? Qu'est-ce qui les attendait réellement là-bas? C'était la première fois qu'elle cessait de questionner la pertinence de sa présence pour se projeter vraiment. La tête lui tourna un peu face à l'ampleur du défi, avec autre chose dans le fond de son être. Un crépitement lancinant qui remontait le long de son système nerveux. Une pointe d'excitation. Zoé guettait les autres visages, cherchait à en reconnaître. Il ou elle avait le nez dans leur sac, sur leur téléphone, un livre ou semblait peu réveillé. Rares étaient ceux qui parlaient entre eux, tout bas. Combien étaient-ils? Pas loin d'une centaine, estima Zoé, alors même qu'une 20aine seulement devait rejoindre Luxe 1. Qui étaient les autres? Outre les diplomates, elle devina une poignée de journalistes assurément triés sur le volet, qui relateraient ce voyage unique lorsque l'autorisation leur serait donnée. Des militaires également, en civil, mais leur carrure, leur attitude figée aux aguets, les trahissait. L'équipe de sécurité, supposa Zoé. Elles étaient sur la passerelle lorsque Romy sortit enfin de la torpeur qui ne l'avait pas quittée depuis le réveil, 2 heures plus tôt. « Mais ils n'ont même pas annoncé nos noms, » dit-elle. « Je veux dire, publiquement. Ce sera fait lorsque nous arriverons sur la plateforme, » les informa une femme juste derrière, sur les marches. Ils ne voulaient pas prendre le risque qu'on nous retrouve, qu'on nous harcèle ou que ça crée des histoires. Ainsi, ça ne sera plus notre problème. » Elle leur tendit la main pour se présenter. « Je m'appelle Tris, équipe scientifique, biologie. » Zoé en fit autant pour elle et sa fille. La femme avait de longues tresses qui lui tombaient jusque sous les seins et un gros grain de beauté noire sur le coin de la lèvre supérieure. Elle devait approcher la 50aine. Tris, c'est pas mon vrai prénom. Je précise avant que vous demandiez. C'est Thérèse. Oui, je sais, j'ai pas une tête de Thérèse, mais c'est le prénom de ma mère et celui de ma grand-mère, une tradition familiale. Je suis de La Réunion. Je sais pas si ça a vraiment un lien, à vrai dire. Bon, en tout cas, depuis petite, on me surnomme comme ça pour me différencier. Une bavarde, donc. Mais sympathique. C'était déjà ça. 6 mois en pleine mer, il allait falloir se faire des amis. Ils décollèrent peu après. Romy dormait déjà. La jeune femme rouvrit les yeux, tandis qu'ils entamaient la phase de descente sur Cayenne. Un Loir. L'air de Guyane était lourd en cette matinée. Il plombait les vêtements, chauffait les poumons. Le contraste avec le début d'hiver en France fut sévère. René sauta sur les filles dès qu'il fut libéré de son caisson et gambada fièrement à leurs pieds dans le petit aéroport. On aurait dit qu'il savait qu'il était l'unique chien de l'expédition et le portait sur le visage, gueule levée, regard sublime. Des bus transportèrent les passagers vers Kourou en moins d'1h30 et les débarquèrent au port de Pariacabo, où ils durent attendre 1 heure de plus dans la chaleur et la moiteur tropicale. René tirait la langue. Zoé n'avait pas pensé à l'amener chez le toiletteur lui faire une coupe d'été. Elle le fit boire directement à la bouteille. On les dirigea ensuite vers le quai principal, où était amarrée une grosse frégate de la marine française. Des matelots attendaient au garde-à-vous en bas de la passerelle et le pacha veillait en haut pour les accueillir à bord.
Un navire de guerre, rien que ça.
Zoé ne s'était pas attendue à ce niveau de sécurité et cela lui fit prendre conscience des enjeux géopolitiques qui se tramaient derrière cette opération. Les nations devaient collaborer, mais chacune demeurait prudente et méfiante à l'égard des autres. Elle s'observerait, guettant le moindre écart, tout signe d'une éventuelle trahison. Cette idée lui déplaisait fortement. Elle n'avait pas envie d'avoir à penser ainsi avec ses futurs collègues. Zoé et Romy furent autorisés à déambuler sur le pont pendant l'appareillage, mais René demeura à l'intérieur par sécurité. Jusqu'à présent, personne n'était venu les déranger, pas même les quelques journalistes. Cela ne s'intéressait qu'aux chercheurs, et Zoé avait le sentiment qu'ils ne les avaient pas identifiés, ni elle ni Romy, comme étant des membres actifs de la mission. En fait, ils n'avaient pas approché Ethan Gabriel non plus, et Zoé devina qu'on ne leur avait encore rien dit à propos d'Icône. C'était tant mieux, estima-t-elle. La terre ocre et émeraude s'éloigna lentement, ourlée d'une eau limoneuse verdâtre, puis l'immensité bleue but tout horizon. Le voyage vers Lux 1 allait prendre 4 jours et demi. Les premières 48 heures, les filles eurent du mal à s'acclimater. Il n'y avait que très peu de roulis ou de tangage à bord, seulement une infime mais permanente sensation de mouvement, accentuée par la fatigue de l'avion et du décalage horaire. C'était plus prononcé le soir dans leur couchette. Aucune ne fut malade, juste un peu de nausée. Le plus difficile était surtout de ne jamais voir l'extérieur. Les coursives de la frégate ne disposaient d'aucun hublot. Elles étaient éclairées d'un blanc vif qui soulignait les tuyaux qui couraient un peu partout sur les côtés ou au plafond et les faisait ressembler au couloir d'un sous-sol d'hôpital. Elle sentait un mélange d'acier tiède, de graisse mécanique, de détergent et une pointe d'embrun qui nécessitait quelques jours pour ne plus se remarquer. Lorsque la nuit venait, l'éclairage passait brusquement en rouge, jusqu'à l'aube, pour aider l'horloge biologique à ne pas perdre le rythme, à défaut de repères solaires. C'était assez anxiogène, estima Zoé. Romy, elle, se familiarisait avec tout, en véritable caméléon. En revanche, l'absence de Wi-Fi la rendait folle. Aucun moyen de savoir ce qui se racontait à l'extérieur en France. Elle tournait en rond. « Comment ils veulent que je fasse mon boulot si j'ai pas de réseau » pestait-elle. « Calme-toi, nous sommes en transit. » René n'était pas en reste. Lui avait un mal fou à faire ses besoins. On les envoyait le promener à l'avant, sous le pont principal, dans une sorte de hangar où se trouvaient d'immenses bobines automatisées qui servaient à enrouler d'interminables câbles que Zoé supposa être les amarres de proue et les ancres. René devait faire ici, parce qu'il y avait de larges trappes latérales ouvrant sur l'océan et des tuyaux pour nettoyer facilement. C'était austère, peu accommodant pour le chien. Pas une parcelle de verdure, rien qui ressemblât de près ou de loin à un ersatz d'incitation à la vidange naturelle. Mais Zoé aimait bien y venir, parce que c'était l'unique endroit où entreapercevoir l'extérieur et respirer de l'air frais. Les machines ronronnaient en permanence. Un lancinant bourdonnement qui jamais ne s'estompait. Il fallait vivre avec. Agaçant au début, il devenait petit à petit une comptine presque rassurante. Le chant des hommes au milieu de nulle part. Le second maître, Yanis Belal, était en charge d'encadrer les deux femmes ainsi qu'Ethan Gabriel et 5 autres élus pour la mission qui logeaient dans la même coursive. Il était leur guide, leur référent à bord pour la moindre question. Le matin du 3e jour, il tomba sur Romy et sa mère qui discutaient au mess. Face à l'ennui manifeste de la jeune fille, Il lui fit signe de l'accompagner et lui fit visiter la salle des machines. Pour une adepte d'urbex, ce nid de conduite, bonbonne, molette et cadran était fascinant. L'endroit était bien plus exigu que ce à quoi elle s'attendait. Un casque anti-bruit vissé sur les oreilles, elle obtint de pouvoir y rester la journée pour dessiner les lieux. Zoé, de son côté, fit la rencontre de 5 autres personnes. 2 militaires qui géraient la sécurité de la mission le temps du voyage, un attaché diplomatique, certainement un type du renseignement, et 2 chercheuses qui rejoignaient l'équipe dite scientifique sur Lux 1. L'une était climatologue et l'autre linguiste, spécialiste des proto-langages et de la conscience linguistique. Il y avait décidément de tout. Ils échangèrent sur divers sujets, mais principalement sur cette expérience folle qu'ils s'apprêtaient à vivre. Portée par le murmure des moteurs et cadencée par l'alternance des lumières blanches et rouges, le temps se diluait de jour en jour et se contractait brusquement. Parfois, les minutes semblaient suspendre leur course dans l'air, rendant une demi-journée interminable. Parfois, les heures se compressaient et s'envolaient. On levait la tête d'une lecture et c'était déjà le moment du dîner. Zoé ne réalisa même pas qu'elles étaient au 5e jour de navigation lorsque le second maître Belal les fit monter sur le pont. C'était leur tour. « Notre tour de quoi ?» avait demandé Zoé, sans recevoir de réponse. Le vent était tiède et délicat, chargé de sel. Le soleil caressa leur peau dès que Zoé et Romy posèrent le pied sur le balcon, sous le poste de commandement. Elles respirèrent à plein poumon cet oxygène vivifiant, burent la chaleur du jour, de simples choses qui leur avaient manqué. L'océan et le ciel se partageaient à parts égales l'horizon, mais elles virent aussitôt les silhouettes noires en bordure de l'un et débordant sur l'autre. Plusieurs dizaines de navires de guerre, destroyers, croiseurs, ravitailleurs, et même au loin, un immense porte-avions. Zoé sentit la main de sa fille lui saisir le bras. De l'autre, elle pointait la direction vers laquelle leur frégate filait à bonne allure. Les doigts de Romy s'enfoncèrent dans sa chair. Elle était là. Plus grande qu'elle ne paraissait à la télévision ou sur Internet. Flamboyante. Sans que quiconque ne puisse affirmer si elle était venue de l'espace, des abysses, ou apparue subitement par la volonté divine. Sphère. Il fonçait à sa rencontre.